Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un aller et retour entre le Maroc et la France, entre hier et aujourd'hui, entre deux amies, l'une qui est restée, l'autre qui est partie, entre tradition et modernité, richesse et pauvreté, et au cœur, la place de la femme, ses droits, ses désirs, ses interdits, dans une société à la fois solaire, mais aussi parfois obscure. Une histoire pleine de promesses et de contradictions qui est le fil conducteur du roman de notre invité aujourd'hui. Bonjour Zineb Mekwar.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint et merci de cette invitation. J'aime beaucoup votre émission, je suis ravie d'être là.
Ça nous touche beaucoup, merci. Vous êtes donc l'auteur de cette fiction intitulée « La poule et son cumin » parue dans la collection La Grenade aux éditions Jean-Claude Lattès, en lice pour le prix Goncourt du premier roman, félicitations, merci. Et qui, à travers l'amitié de Kenza et Fatia, met en scène un pays, le Maroc, où vous êtes né, et la France, où vous êtes installé. Comme Kenza, d'ailleurs, d'une certaine façon, l'une de vos narratrices qui un temps vit à Paris. Mais en rentrant, elle regarde différemment la terre de son enfance. Est-ce que ce roman est né aussi du regard neuf que vous avez pu poser récemment sur le Maroc ?
Alors oui, effectivement, ce roman naît à la fois du regard neuf qui a été décentré par mes années en France et à la fois de mon enfance passée au Maroc où le regard de l'enfant finalement comme celui de l'écrivain est un regard qui est toujours sensible à cette cruauté de la misère de certaines, malheureusement, de trop de Marocains qui vivent dans une extrême pauvreté. Moi, je me souviens quand j'étais enfant et que je voyais des gamins de mon âge mendier à la fenêtre de la voiture, ça m'avait assez traumatisée. Et c'était un peu cet hommage que je voulais faire à la petite fille que j'étais au Maroc. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai eu d'autres réflexions sur les rapports France-Maroc. D'où ce roman qui est un peu une fresque sociale et politique des relations France-Maroc post-indépendance, en fait, quelque part.
Et quand vous étiez jeune, enfant au Maroc, vous aviez déjà envie d'être romancière ou c'est le sujet finalement qui a créé le désir d'écrire ?
J'ai toujours eu ce besoin d'écrire. C'est un peu un rapport au monde. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais chez mes grands-parents à Rabat et je gribouillais des histoires et ma grand-mère trouvait ça formidable. Et peut-être que c'est via son regard à elle que j'ai trouvé le courage de continuer parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail, c'est pas juste une envie. Et donc plus tard, j'ai persévéré, j'ai voulu apprendre à écrire des intrigues, des personnages et je suis très heureuse que la collection La Grenade et les éditions Lattès aient aimé ce livre.
Donc on va en parler de vos personnages, en effet, Zineb Mekwar, avec, pour commencer, Kenza, orpheline de parents, élevée par ses grands-parents dans une famille riche de Casablanca, et puis Fatia, son amie d'enfance, qui est la fille de la nourrice, mais qu'elle considère comme sa sœur. Que représentent ces deux jeunes Marocaines pour vous ? Qu'est-ce qu'elles vous permettent de dire de la société marocaine ?
Eh bien, en fait, pour moi, c'est vraiment les deux faces d'un même Maroc. Et à travers ces deux jeunes filles qui sont liées par une profonde amitié enfantine, c'est toute une jeunesse qu'on voit, une jeunesse qui est bridée par des carcans à la fois au Maroc, avec des traditions, le poids de traditions, des lois désuètes, par exemple, l'avortement est interdit, beaucoup de choses qui sont un peu hypocrites dans ce code pénal, et à la fois des carcans en France, parce que ces étudiants, enfin ces élèves, souvent marocains, qui sont dans des systèmes français pour Kenza, le personnage de Kenza, et qui viennent en France, sont souvent amoureux de la langue française, de la culture française, ils sont presque programmés à aimer la France. Et quand ils viennent ici, depuis quelque temps, malheureusement, on peut leur renvoyer l'image du maghrébin, du musulman, de l'arabe. Donc, en fait, il y a deux questions fondamentales que pose ce roman. D'abord, est-ce que, en tant que femme au Maroc, aujourd'hui, on peut s'émanciper, quel que soit le milieu social ? Parce que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elles font effectivement partie de deux milieux sociaux très différents. Mais au final, est-ce qu'elles peuvent s'émanciper ? Et c'est pas tant le milieu qui joue, c'est le fait d'être femme.
En effet, on va développer ces deux thèmes avec vous, Zineb Mekwar. Je m'arrête peut-être pour commencer sur cette inégalité sociale qui traverse néanmoins cette fiction avec, on a l'impression, deux poids, deux mesures, selon ouais. qu'on est d'une famille riche ou pauvre, que la loi ne s'applique pas forcément de la même manière selon le milieu d'où on vient. Et d'ailleurs, même sans parler de la loi, il y a cette scène terrible où la jeune Fatia, qui est donc issue d'un milieu modeste, mais qui néanmoins réussit une très brillante scolarité, ne peut pas faire des études de médecine alors qu'elle a réussi l'examen d'entrée parce que quelqu'un d'un peu plus aisé, on ne va pas le citer forcément, l'écarte du chemin de cette voie royale, devenir médecin. Ouais. C'est terrible ça. Vous avez assisté à ce genre de scène ?
C'est terrible. Alors oui, effectivement, l'espace du roman me permet de reprendre, de remodeler des choses que j'ai vues ou que j'ai entendues. Il y a ça, malheureusement. Alors j'espère qu'avec les générations d'aujourd'hui, cette jeunesse à qui je dédie ce livre, je dis à cette jeunesse qui se libère et qui vit passionnément, j'espère que ça va changer. Mais effectivement, c'est une société très rigide, avec des classes sociales où chacun est à sa place. Et il ne faut pas que ça bouge, presque des castes quelque part. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, cette cruauté où en fait l'ascenseur social ne marche pas et on ne veut pas qu'il marche. C'est ce qui est très difficile. Par exemple, le système éducatif marocain le montre dès qu'on a un peu d'argent. Ce que les parents font, c'est qu'ils se saignent pour envoyer leurs enfants dans des systèmes étrangers. Bien sûr, le système français en tête parce que l'histoire, l'héritage colonial l'explique. Mais en fait, on a toujours cette question quand les femmes sont enceintes au Maroc et quand elles accouchent, il y a cette première question, c'est mais où est-ce qu'on va l'inscrire ? Est-ce qu'on va l'inscrire à l'école française, à l'école américaine, à l'école belge ? Quelque chose qu'on n'entend jamais en France, par exemple. Donc il y a vraiment ce sujet de l'ascenseur social qui est bloqué à la fois à cause de l'éducation publique où il n'y a pas forcément d'école très solide et à la fois même culturellement par des familles qui ne veulent pas forcément que ça change.
Espérons que cela change. D'ailleurs, je suis très amusée, Zineb Mekwar, quand vous dites cette jeunesse à qui je dédie ce livre, mais vous en faites partie de cette jeunesse. Vous avez 31 ans, donc vous faites partie de cette génération qui peut faire bouger les lignes.
Complètement, et c'est en ça que mon roman est totalement engagé. Moi, je me considère totalement comme faisant partie de cette jeunesse, mais heureusement, je ne suis pas la seule ni la première à le dire. Il y a des collectifs qui sont créés au Maroc, comme par exemple le collectif Moroccan Outlaws, qui a été co-créé par Sonia Terab, une réalisatrice, et Leïla Slimani, écrivain, et qui dit, ben, nous, on est hors la loi tant qu'il y a des articles du code pénal qui empêchent les libertés individuelles, l'émancipation des jeunes. Je pense que le Maroc aujourd'hui est à une période charnière parce que les islamistes ne sont plus au pouvoir depuis octobre dernier et il y a un vrai souffle, une envie d'émanciper par plus de droits individuels et on est de plus en plus nombreux à en parler, à dire ça suffit là. En fait, c'est hypocrite parce que la société change, le code pénal ne change pas, il faut le changer, il faut une réforme.
Et parmi ces réformes attendues, évidemment, toutes celles qui concernent la femme, j'imagine. Parce que très vite, dans ce roman, Zineb Mekwar, et sans filtre d'ailleurs, vous abordez la question de la sexualité des jeunes femmes au Maroc, dans toutes ses déclinaisons, la pression pour rester vierge jusqu'au mariage, donc avoir des relations d'une autre nature, l'impossibilité de se tenir par la main si le couple n'est pas officiel, tomber enceinte célibataire, source de honte familiale, l'avortement sanctionné par la prison, et j'en passe. En tout cas, vous soulignez toutes les limites aux droits des femmes. Est-ce que c'est une source d'indignation pour vous ?
Oui, bien sûr. Je montre ça via beaucoup de personnages dans le roman. L'idée, c'est vraiment de montrer que, évidemment, il y a eu des avancées au niveau du droit des femmes. Il y a 20 ans, il y a eu une réforme du code de la famille qui s'appelle la Moudouana, qui donnait, à peine il y a 20 ans, mais le droit de divorce. Mais 20 ans après, ce qui est choquant, c'est que rien n'a changé pour les femmes. Et du coup, comme je vous disais, on est plusieurs à s'indigner parce que, par exemple, le fait qu'une mère célibataire soit presque doublement pénalisée puisque les relations sexuelles hors mariage sont interdites au Maroc. avec l'article 490 du code pénal, et quand on veut se faire avorter, c'est interdit. Du coup, en fait, il y a une double peine. Et on dirait que ces femmes-là, elles ont fait un bébé toutes seules. Donc c'est ça qui est fou, c'est cette hypocrisie. Et c'est pour ça que j'ai voulu une écriture sans filtre. Alors effectivement, c'est très cru pour certaines scènes. Et je suis très heureuse qu'au Maroc, il y ait un très bon accueil, parce que ça montre bien que, en fait... beaucoup de personnes dans le pays veulent que ça change.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que aborder ce sujet tabou dans un roman de façon aussi transparente, c'est à la fois une façon pour vous de vous révolter, de dire ce que vous avez sur le cœur, voire de soulever des questions pour vos jeunes lectrices marocaines?
Je pense que l'espace du roman est un espace qui est apaisé et qui peut parler de choses très dures, où souvent on a tendance à se positionner dans les conversations de la vie de tous les jours. Et l'espace du roman peut permettre de montrer, d'exposer une réalité sans jugement. Et j'ai beaucoup de retours de jeunes femmes et d'hommes aussi, notamment, qui me disent « mais merci, parce que c'est ce qu'on ressent. » Et grâce à ce roman, je me suis sentie moins seule. Et je trouve ça très beau, je trouve que c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un livre, c'est que ce livre rentre dans notre solitude et nous accompagne. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche souvent en littérature, donc je suis ravie si ce roman-là peut toucher ses lecteurs.
Et vous abordez aussi d'autres sujets sensibles, entre guillemets, comme le respect du Ramadan ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit sur place, donc à Casablanca en l'occurrence, des jeunes gens qui résistent parce qu'ils ne sont pas forcément croyants, mais ils sont rattrapés par la tradition, par leur génération, et ce choix est considéré comme de la provocation inutile. Donc ça veut dire que le poids de la religion est encore incontournable, même si on se veut laïque.
Le poids de la religion est encore présent, mais de manière très paradoxale. C'est qu'il y en a qui veulent s'émanciper totalement et il y en a qui retournent à des traditions de manière encore plus forte que leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est ça que j'ai voulu un peu montrer dans le livre. D'ailleurs, ce moment du roman, je m'inspire un peu de ce qui s'est passé avec une amie à moi. J'ai eu ça, c'était vraiment une anecdote personnelle que je reprends pas exactement dans le roman, mais différemment, où en fait, je vais au Maroc avec une amie de Toulouse et elle est très méditerranéenne et elle fait presque méditerranéenne plus que moi, quelque part. Et on va au McDo et on commande, et c'était Ramadan. Et moi, je parle français, elle aussi. On me donne mon McDonald's tranquillement, enfin le menu. Et elle, on lui demande sa carte d'identité. Parce que c'était un délit de faciès. Alors que c'était moi la Marocaine dans l'histoire. Et elle était toulousaine avec cet accent sublime du sud de la France. Et alors, c'est ça que j'ai voulu. Enfin, l'avoir vécu, ça m'a fait me dire, mais quel paradoxe, quelque part. C'est vraiment, en fait, beaucoup d'incompréhension et d'ignorance de la religion même. C'est plus des positionnements, quelque part.
Et en même temps, quand Kenza souhaite ne pas faire le Ramadan, que donc son ami lui dit c'est de la provocation inutile, elle dit ça me remet dans le rang. Et donc finalement, par facilité, elle va faire le Ramadan. Est-ce que c'est pas un peu désolant, finalement, de céder à la pression?
Bien sûr. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'il y a différents personnages et différentes réactions. Kenza fait partie de ceux qui, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas... Et puis, c'est plus dur pour une femme aussi de se dire, allez, je vais réussir à m'émanciper et je vais taper du poing sur la table, surtout quand on n'a pas le choix et qu'on est obligé de rester. Et donc, il y a elle qui, finalement, se dit, bon, allez, j'ai pas envie de faire d'histoire. Et puis, d'un autre côté, il y a le personnage de Mamoun qui revient au pays par choix, lui, par volonté, et qui se dit, mais... moi, je vais faire changer les mentalités. Alors, il vient avec cette belle naïveté et puis plein de beaux rêves pour le pays. Et alors, il se passe des choses pour Mamoun que les lecteurs vont découvrir en lisant le livre. C'est pas si simple. C'est pas si simple.
Il faut du temps.
Il faut de l'envie. Il faut des personnes qui combattent ces mentalités, que ce soit par l'art, la littérature, le cinéma, la musique et en termes d'associations, de sociétés civiles, le politique aussi. Il faut que de partout, l'envie vienne.
Alors, on a parlé des grands thèmes qui traversent votre roman Zinem Mekwar, mais il faut dire aux auditrices et aux auditeurs que tout cela est incarné dans vraiment ce roman d'apprentissage où l'on voit grandir vos deux jeunes filles, Kenza et Fatia, qui chacune à leur façon essayent d'avoir la vie dont elles rêvent en fonction aussi des contraintes dans lesquelles elles sont obligées de vivre. Et ce sont vraiment deux jeunes femmes auxquelles on s'attache beaucoup, que vous nous faites vivre sous nos yeux. Par exemple, Kenza, on la voit avec ses grands-parents, on la voit avec ses amis, et puis on la voit écrire, ça c'est un point sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et puis elle écoute de la musique, des chanteurs français, dont Pierre Bachelet, puisque sa grand-mère l'adorait. Elle redécouvre aussi la musique marocaine. Et vous, Zinem Mekwar, vous aimeriez quelle chanson en particulier qu'on écoute ensemble maintenant ?
Écoutez, Pierre Bachelet, avec grand plaisir. C'est vrai que je me suis inspirée de mon enfance où j'écoutais des chansons françaises avec ma grand-mère. Je voulais choisir la chanson que vous préférez de Pierre Bachelet. Moi, je les aime toutes.
J'imagine que celle que vous citez en particulier, elle est d'ailleurs...
Avec plaisir.
Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière à damner l'âme d'un vermeil. Cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses persiennes, ce geste, je le sais par cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Zinem Mekwar, qui vient de publier La poule et son cumin dans la collection La Grenade aux éditions Jean-Claude Lattès, sélectionnée par le prix Goncourt du premier roman. Un mot sur ce titre énigmatique, La poule et son cumin, qu'on ne peut pas comprendre si on ne parle pas l'arabe.
L'arabe marocain, la darija, effectivement, c'est une expression qui est typiquement marocaine, qui est un peu du style le beurre et l'argent du beurre, mais qui ne veut pas vraiment dire ça et qu'on comprend dans le roman. Parce que c'est un des points de curiosité. Et ensuite, j'ai eu des retours de lecture, on m'a dit j'attendais de comprendre et j'ai compris.
Où était
alors, du coup, j'espère que les auditrices et les auditeurs vont se dire la même chose.
Donc cette question de la langue, elle est importante dans votre roman Zinem Mekwar, parce que d'un côté, à travers plusieurs scènes, vous soulignez qu'il y a l'arabe populaire que l'on parle au quotidien et puis l'arabe classique, qui est la langue de l'administration, des journaux, de la vie officielle, dont ne semblent pas être familiers tous les jeunes. C'est un problème pour vous, selon vous ?
Alors, en fait, la langue, effectivement, pour moi, c'était presque un personnage à part entière. Le rapport entre le français, l'arabe classique et l'arabe dialectal marocain, qui est la darija, en fait, pour moi, il y a une schizophrénie au Maroc. Les gens parlent arabe marocain, parlent français pour certains, même beaucoup, mais pas beaucoup ne parlent arabe classique. C'est comme si on disait, il y a plusieurs siècles, le latin avec les langues vernaculaires. Et en fait, on a souvent l'impression que l'arabe, c'est le même partout, alors que pas du tout. Par exemple, moi, si je vais dans un pays des Émirats, je pourrais pas parler arabe avec eux. Et donc, c'est ça que j'ai voulu montrer. C'est paradoxe, en fait.
Mais vous parlez, vous comprenez l'arabe classique ?
Alors, j'ai fait beaucoup de cours d'arabe classique, comme beaucoup d'étudiants, mais malheureusement, non, je le comprends, je le lis, je pourrais m'y mettre et peut-être le maîtriser, mais c'est pas du tout ma langue maternelle, comme le français ou l'arabe marocain le sont. D'ailleurs, je rêve en français et en arabe marocain. C'est quand on parle avec des amis marocains, c'est un mélange des deux, et c'est pas du tout l'arabe classique. Pour l'anecdote, quand, par exemple, certaines personnes souvent font des études ailleurs et arrivent et prennent des postes importants au Maroc, beaucoup prennent des cours d'arabe classique pour pouvoir parler ou faire des discours que personne ne comprend. Et donc, c'est complètement ubuesque, finalement.
Alors, peut-être qu'aussi, à travers cette question de la langue, c'est la question de la génération. Parce que c'est bien de la nouvelle génération que vous parlez ici avec Kenza, qui clairement ne vit pas dans le même monde que son grand-père, lequel dit d'ailleurs qu'elle devrait se souvenir d'être une enfant de la décolonisation et une petite fille.
Une enfant de la colonisation, voilà. Et une petite fille de la décolonisation.
Exactement. Est-ce que pour la jeunesse marocaine aujourd'hui, cette histoire est encore présente dans la vie de tous les jours ou pas ?
Alors, c'est très intéressant que vous souligniez ça, parce que le personnage du grand-père symbolise finalement un Maroc assez rigide. Il ne veut pas qu'elle aille à l'école française, même s'il sait que de toute façon, c'est mieux pour elle. Et à côté de ça, le personnage de la grand-mère rééquilibre quelque part avec une certaine modernité en disant « Mais ok, c'est notre histoire, mais on va dépasser ça. » Et d'ailleurs, dans un dialogue, elle dit «
Je préfère qu'elle l'oublie. »
C'est exactement ce que je veux qu'elle oublie, ce que je souhaite qu'elle oublie. Et je trouve que c'est ça qui est finalement peut-être le cœur du sujet, que ce soit en France ou au Maroc, parce que cette jeunesse, elle est vraiment entre les deux, elle veut s'émanciper, mais au Maroc, on peut parfois lui rappeler « Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et en France, on lui met en face d'elle son côté identitaire, cette assignation à résidence presque, où le personnage de Kenza, par exemple, dans mon roman, elle dit à un moment, dans une des lettres qu'elle écrit à sa grand-mère, elle dit « Je me suis jamais sentie autant arabe qu'en France. On ne me demande pas si je préfère le rock au jazz, le salé au sucré. On s'étonne simplement de me voir manger du cochon et de boire du vin. » Et je trouve que ça montre quelque chose de très fort de la société française où, malheureusement, on peut assigner à résidence certaines personnes en s'attendant à ce qu'elles soient d'une manière ou d'une autre par rapport à leur identité. Et en fait, on ne va pas forcément à leur rencontre. On essaie de poser un cliché sur quelqu'un. Et je pense que la littérature, c'est un espace où on rencontre l'autre parce que, finalement, quelle que soit la culture, le pays, la religion, en fait, on se rend compte qu'on est tous les mêmes parce qu'on a tous nos joies, nos peines, nos espérances. Et pour moi, c'est ce que permet la littérature qui a presque un rôle social quelque part.
Mais cette histoire de la colonisation et de la décolonisation, on vous l'a inculqué, vous, Zineb Mekwa ? Est-ce que vous vous sentez héritière de cette histoire ou pas ?
Je ne me suis jamais vraiment posé la question avant, encore une fois, d'être venue faire mes études ici.
Vous voulez dire qu'au Maroc, on ne parle pas de la colonisation et de la décolonisation ?
Non, au Maroc, enfin, c'était tout à fait normal. J'étais au lycée français. Il y a beaucoup de Français qui vivent là-bas, beaucoup de Marocains qui parlent français et puis aussi qui parlent maintenant de plus en plus anglais. C'est un mélange. Vous savez, le Maroc, le mot Maroc en arabe, Maghreb, ça veut dire Occident. Et en fait, c'est marrant parce que c'est l'Occident de l'Orient et l'Orient de l'Occident. Et donc, c'est un carrefour des civilisations qui est sublime, je trouve, comme aussi symbolisé Tanger il y a quelque temps. Et donc, c'est vraiment un mélange incroyable des civilisations. Et non, on n'en parle plus. Alors, bien sûr, il y a cette schizophrénie de la langue où on garde le français ou pas en langue officielle, mais il n'y a pas cette réflexion. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça.
Alors, parlant de la France et revenant à ce que vous avez déjà évoqué, Zine Mekwar, c'est vrai que le séjour de Kenza, quand elle va y faire ses études, est assez jalonné de déceptions, j'ai envie de dire. Le racisme, les préjugés, les interpellations sur la burqa, sans oublier ce que vous mentionnez, la circulaire de Claude Guéant, qui dans les années 2010 a rétréci le nombre d'étudiants étrangers qui pourraient rester ensuite travailler dans l'Hexagone. Et déjà, vous mentionnez une montée du vote pour l'extrême droite en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous devez être encore un peu plus inquiète, non ?
Alors, effectivement, le roman se situe l'intrigue fin 2011, qui est un moment charnière à la fois pour le Maroc, parce que c'était la montée des islamistes au pouvoir, et en France, parce qu'il y a eu cette fameuse circulaire Guéant qui a mis à la porte beaucoup d'étudiants étrangers, qui ensuite a été abrogée. Et donc ça montre quand même que la France ne veut pas, ou en tout cas beaucoup de gens ne veulent pas que la France perde c'est quand même une terre d'accueil. Effectivement, bien sûr, je suis concernée par ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un parallèle très fort avec la situation actuelle. Maintenant, je pense que la littérature permet de ne pas oublier peut-être les fantômes du passé et se dire qu'il faut faire attention à la montée du racisme, de l'antisémitisme, de tout ce qui est finalement la peur de l'étranger, qui est une peur infondée. Et en fait, pour moi, ce roman questionne ça, c'est se dire attention.
Mais vous avez l'impression que cette peur est plus grande aujourd'hui qu'il y a 10 ans ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de voix qui montrent que cette peur est infondée et qui clament simplement qu'il y a une autre France. Il y a peut-être la France... en tout cas, il y a cette montée d'extrême droite, mais il y a tellement de gens en France qui viennent de... La France est plurielle, qui viennent d'identités différentes, de cultures différentes, et qui sont français et qui sont fiers. Et c'est cette majorité-là... Enfin, moi, je considère et j'espère que c'est une majorité qu'il faut écouter. Et moi, je suis de tempérament optimiste. Je rencontre des gens formidables tous les jours en France. Je vis à Paris depuis près de 15 ans et j'ai demandé ma nationalité française après quelques années en France. Je suis une amoureuse inconditionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi voulu parler de cette France-là que j'aime, même si, comme le Maroc, j'en fais un portrait sans concession, mais parce que quand on aime, il faut montrer aussi, pointer du doigt ce qui ne va pas.
Pour finir, parlons de littérature avec Le Spleen de Baudelaire, ce livre qui accompagne votre personnage, Kenza, dans lequel elle cache des lettres qu'elle adresse à sa grand-mère, disparue trop tôt. J'ai l'impression que s'il faut vous chercher quelque part, c'est peut-être là exactement.
Effectivement, alors c'est une fiction, j'ai gardé en hommage à ma grand-mère ce livre. C'est ma grand-mère qui m'a donné l'amour de la littérature et de la musique française. Elle a fait des études de lettres françaises alors qu'elle était marocaine et elle écoutait du Brel et Edith Piaf. C'était un clin d'œil. D'ailleurs, l'une des seules choses qui sont vraies dans le livre, c'est ce livre-là qu'elle m'a donné et puis le surnom que je lui donnais, qui est le surnom de Mamizou. Et c'est en hommage à ma grand-mère que j'ai gardé ce surnom-là.
Merci beaucoup, Zinem Mekwar.
Merci à vous.
Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de ce premier roman, La poule et son cumin, en lice pour le prix Goncourt du premier roman, qui est apparu dans la collection La Grenade aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci à vous.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.